résidence sur la place que le Canadien a présentement en séries éliminatoires. Prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, prenons soin des autres. On s'en va au centre de glace. Passez une bonne soirée. On se revoit demain. Bye-bye.
Collez sur ce qui se passe ici et ailleurs.
Je fais référence à l'investissement du groupe Trudel, 300 millions. On en a besoin, puis ça presse.
Ouais, sauf que je pense pas qu'il y ait un Canadien au pays présentement qui peut fermer la trappe en pro-québécois ouais. Donald Trump.
Les enjeux qui te concernent.
La ville est excellente pour gérer le déneigement.
Come on! Le but gagnant de la veille. La nouveauté de Green Day. Le fou rire qui fait ta journée.
Ah, franchement, la gang, là. Ressaisis, c'est vous.
Boulevard 102.1. Pour du monde de Québec, par du monde de Québec. Une propriété Leclerc Communication.
Salut, bonsoir, Québec. En espérant que vous ayez passé une belle journée, bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. C'est 14 degrés qu'on a actuellement, donc on est encore très confortable. Ce soir, cette nuit, nuageux avec des rafales à 50 km/h. Tard en soirée, nous dit-on, minimum de plus 1 degré. Pour ce qui est de vendredi, ce sera des averses de neige. Demain, qui devrait cesser en fin de matinée, donc juste avant midi, une alternance de soleil et nuages par la suite avec un maximum de 6 degrés. Pour ce qui est de samedi, ce sera de la pluie intermittente avec un maximum de plus 4 degrés. Et dimanche, ce sera ensoleillé avec un maximum de moins 1 degré. Ce soir, dans le podcast de Marceau Soir, en ce jeudi, on aura le plaisir de parler avec la belle gang de Truck Stop Québec. On va parler d'une enquête de JE de TVA qui ont décidé de se pencher sur le phénomène des camionneurs Inc. Donc, on va en parler dans les prochaines secondes. Les amis, bon jeudi. Merci d'être là. Le podcast débute à l'instant.
Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le Marceau, soir. Le soir. Le soir.
Salut, bonsoir, Benoît Thérien de Truck Stop Québec, comment vas-tu?
Ça va super bien, Yannick Marceau, toi?
Merci d'être là, cher ami, puis de prendre le temps de passer 60 minutes avec nous le soir, c'est très sympathique. Puis je sais qu'il y a énormément de camionneurs qui t'écoutent de ton côté, mais il y a énormément de camionneurs qui nous écoutent sur les ondes hertziennes actuellement. Puis ce que j'aime, c'est qu'il y a des gens qui m'écrivent, à chacun de tes passages, Benoît, il y a des gens qui nous écrivent, qui disent, tu sais quoi? Je suis pas camionneur, mais je m'intéresse à ce qui se passe dans le merveilleux monde oui. du camionnage grâce à Benoît Thérien. T'es un passionné, puis c'est le fun de t'avoir.
Mais il y a peut-être quelque chose qui intéresse, tu sais, ça s'explique peut-être parce qu'il y a bien des gens, autant des gars que des filles, là,
ouais.
qui se sont, à un moment donné, levé un matin en disant « Est-ce que j'aimerais ça parcourir l'Amérique du Nord en camion, ou le Canada, ou les Maritimes, l'Ontario, et de pouvoir faire... » de longues distances, puis d'avoir bien du plaisir mm-hmm. à découvrir chaque jour du nouveau. Puis, écoute, c'est pas une agence de voyage conduire un truck, mais il y a quelque chose qui fait en sorte qu'on aime voyager. Je pense que c'est ça qui retient plus l'attention de tes auditeurs et tes auditrices.
Ouais. Tu sais que lundi, c'était la fête des Irlandais, Ben?
Oui.
Bon, là, je me demandais si c'est à cause de la fête des Irlandais. Toi, t'es un roux, donc nécessairement, tous les roux descendent d'Irlande. Tout le monde sait ça. C'est-tu pour ça qu'ils t'ont invité à JE demain?
Ben, écoute,
c'est pour la fête des Irlandais, non?
Non, je pense pas, mais il y a quelque chose qui fait que JE demain soir, je pense, je suis pas devin, j'ai pas de boule de cristal,
ouais.
mais il va y avoir du monde qui vont écouter cette émission. Pourquoi? Parce que ça traite d'un sujet qui touche monsieur et madame tout le monde. Ça traite d'un sujet qui nous touche dans notre industrie du camionnage. Et ça va parler de sécurité routière, ça va parler de formation,
ouais.
ça va parler aussi des enjeux qu'on a dans l'industrie du camionnage. Ça va toucher un peu le camionneur Inc., ce fameux fléau dans notre industrie.
Ouais.
Puis les gens de JE ont travaillé très fort. Écoute, c'est... vingtaine de minutes, 22 minutes, un show de JE, là, quelque chose comme ça.
Ouais.
Je vais te dire, il y a un travail énorme. On a passé 3 jours avec ces gens-là. On a eu énormément de plaisir, premièrement, de découvrir l'envers du décor. C'est quelque chose de voir les caméras, les questions, tout ça, de passer du temps, de fraterniser avec l'équipe, les journalistes, Denis Thériault qui était avec nous autres, Francis Alain du Journal de Montréal.
Je pensais avoir la chance de parler à Denis Thériault ce soir. Finalement, on n'a pas eu les autorisations.
Un jour,
peut-être que j'aurai cette chance
de lui parler.
Exact. Un jour, peut-être que j'aurai la chance. Mais tu as dû, parce que Denis Thériault a une éthique journalistique qui est hallucinante. Là. J'ai l'impression qu'il travaille 7 jours sur 7, du matin jusqu'au soir. Tu as dû pogner un 2 minutes quand tu as rencontré un vrai de vrai journaliste.
Bien, quelqu'un qui, je pense, a autant de passion que moi, dans le fond.
Ouais.
Il s'est intéressé tout de suite au milieu du camionnage.
Ouais.
J'avais l'impression de parler à quelqu'un d'expérience qui posait les bonnes questions et qui savait où ce qui s'en allait tout au long du reportage. C'est sûr qu'il y a plusieurs années d'expérience derrière la cravate,
mais
chose indéniable, c'est que tout est fait dans le respect, tout est fait avec une qualité, tout est fait aussi avec professionnalisme. Donc, tu sais, puis ça, c'est un sujet qui traite aussi, des gens qui viennent d'un peu partout dans le monde. Puis ces gens-là sont abusés, des fois, par leur propre communauté. Fait que d'aller chercher un commentaire, d'aller chercher une réponse, d'aller chercher quelque chose... ça peut risquer d'être difficile, mais il y a le fait que ces gens-là sont habitués, ils vont de façon très polie. Écoute, moi, je suis pas au courant du montage de ce qui va être diffusé demain soir à l'émission JE.
Ouais.
Je sais un peu qu'est-ce qu'ils ont fait et tout ça, mais je suis pas au courant de la version finale.
Okay.
Mais j'ai eu le 15 secondes, c'est monté de main de maître. Il y avait plus de 100 quelques mille vues de la première version qu'on a mis en ligne. Il y a un intérêt incroyable. Tu sais, nous autres, quand on dit, bon, on a 20, 25, 30, 40 000 personnes qui ont vu une publication, on est content.
Ouais, ouais.
Mais là, on a triplé, quadruplé ces chiffres-là. Puis ça n'arrête pas du partage au pied carré. Assez que, tu sais, il y a des gens dans mon entourage qui me disaient, Ben, je vois cette publication-là partout sur les réseaux sociaux.
Ouais.
Je pense qu'il va y avoir bien du monde demain à TV.
Mais J.A., c'est du journalisme d'enquête. Y a-tu des caméras cachées? Est-ce que vous avez tenté de soutirer de l'information? Y a-tu des choses que tu peux me dire, des choses que tu peux pas me dire?
Ben, dans le fond, je ne sais pas jusqu'où ils ont été en caméra cachée.
Ouais.
Mais j'ai vu le kit de caméra cachée qu'il opère. ça, j'ai vu comment ça marche. Mais c'est quelque chose à voir, là, tu sais. La technologie aujourd'hui, Yann, là. Écoute, on pourrait avoir des écouteurs, puis d'après moi, on peut se cacher une caméra des écouteurs.
Ouais.
La technologie permet de tout faire. Fait que ces gens-là peuvent à peu près rentrer là où ils veulent rentrer, puis c'est pas propre au camionnage, ils pourraient faire une enquête ailleurs, puis avoir, je sais pas moi, toutes sortes de technologies possibles. Je dirais quasiment que c'est des détectives privés à quelque part.
Ouais.
Ça a permis peut-être d'aller à des endroits qu'on va découvrir dans le reportage. Okay.
Avec J.E., Ben, est-ce que vous avez été dans des écoles qui émettent des permis de conduire à des gars qui savent pratiquement pas conduire en 24 heures ou 48 heures?
C'est dur à dire parce que je ne connais pas le résultat final.
Ouais.
J'aimerais ça le savoir, j'aimerais ça le connaître. Mais
ça existe-tu, ça, ces écoles-là, Ben?
Il y a des écoles qui existent au Québec. Il y a des formations qui se donnent au Québec.
Au Québec-Ontario, oui.
Québec-Ontario, oui. Il y a des permis de conduire qui s'obtiennent assez rapidement, pour ne pas dire dans des boîtes de Cracker Jack. Tu te rappelles, il y a quelque temps, il y avait eu un genre de passe-passe avec certaines personnes de la SAAC, des écoles. On obtenait un permis de conduire, tout ça. Fait que, puis c'était dans la région de l'ouest de l'île de Montréal. Fait que je serais pas surpris qu'un jour, mettons que Denis et son équipe disent on va aller infiltrer des écoles, qu'on se retrouve avec des situations comme on a vécu comme ça, où il y a des gens qui obtiennent des permis très facilement, où la sécurité routière prend le bord, puis pas à peu près, là.
Oui, effectivement. Puis, tu sais, ce fameux 15 secondes-là là, pour qui annonce l'émission JE demain 20h, peut-être que c'est en raison du fait qu'on jase, mais il est en train de défiler devant moi. Fait que j'ai l'impression...
Le camion dans le médium, hein?
Oh, comment?
Le camion dans le médium qui est comme sur un ponceau.
Oui.
Tu sais, je ne sais pas, là. Si je suis le chauffeur de ce camion-là, je me retrouve dans cette position-là.
Ah non.
Je les change pas, je les lave pas, je les brûle. Ouais.
Mais faut que ça arrête, Ben. Faut que ça arrête, là, les camions qui roulent sens contraire sur l'autoroute. Les gars qui réussissent à avoir des permis de conduire en 24 heures et 48 heures de véhicules lourds. Des gars qui savent même pas reculer leur remorque, tu sais, à la gate, puis sont obligés de demander à des gens d'expérience de « Excuse, peux-tu embarquer dans mon camion puis reculer la remorque? » C'est extrêmement dangereux sur nos routes. Puis peut-être que le reportage de demain va faire réaliser à des politiciens que ce genre de truc-là existe. Okidou, hey, j'ai le goût de te parler des gens qui patrouillent là, pour les...
Contrôleurs routiers?
Exactement, les contrôleurs routiers. Là, est-ce qu'ils vont l'avoir, leur arme à feu, ou ils l'auront pas? Puis pourquoi ça s'est ramassé aussi au tribunal administratif du travail?
Bon, en fait, ça, c'est une demande qui date de plusieurs mois, pour ne pas dire plusieurs années. Les constables de contrôle routier Québec... Les agents que vous voyez dans des postes de pesée routière, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y a eu une demande à un moment donné d'avoir le permis de port d'armes. Et c'est accepté, en fait, par une juge. Et ça fait quoi, quelques semaines que c'est accepté. Mais la juge pousse son jugement plus loin en disant que là, pour des raisons de sécurité pour ces gens-là, comme ils ne sont pas armés, ben ils devront rester dans des postes de pesée routière. Est-ce qu'on est pour, est-ce qu'on est contre que les contrôleurs routiers soient armés? Moi, tu sais, personnellement, pour 99 % de l'ensemble de ce qu'on fait dans notre milieu, je pense pas qu'on a besoin d'armes. Mais de plus en plus, puis force est d'admettre qu'il y a de plus en plus de crimes organisés qui gravitent autour de notre industrie, des camions qui transportent des substances illicites, on transporte des véhicules volés, on transporte des cargaisons volées, tout ça. Je le dis souvent, moi, si je m'en vais sur la route, il est 2 heures du matin, j'intercepte un camion, puis qu'il y aurait de la substance illicite dedans, parce qu'ils ont le pouvoir de faire ouvrir les portes, même s'il y a un seal sur les portes, ils ont tous les pouvoirs possibles. Puis qu'on sait pertinemment qu'est-ce qu'il y a dans le véhicule, t'es tout seul à bord de ton auto-patrouille, puis qu'il arrive un auto en arrière, puis ça, c'est les gaillards qui vont venir défendre la cargaison. Tu sais, je donne pas cher de la peau avec la petite canne de poivre de Cayenne, tu fais pshht, puis c'est pas mal fini.
Mais ça arrive-tu si souvent que ça? T'sais, raconte-moi la réalité, parce que moi, je suis à Québec, là, tu sais, j'ai vu les contrôleurs routiers, puis je les vois faire des interceptions, puis la plupart du temps, tu sais, ce que je vois, là, c'est correct. Les gars sont à l'extérieur avec les contrôleurs routiers, sont capables de se parler. Les contrôleurs routiers font leur job. Quand j'ai eu la chance d'en rencontrer un avec toi, Ben, qui était venu en studio avec nous autres à l'époque, il disait... Oui, c'est ça, il disait que dans la plupart des cas, ça se passait extrêmement bien. Mais ailleurs au pays, y a-tu des cas qui sont répertoriés où les contrôleurs routiers se font carrément attaquer, ils se font tirer, ils se font enlever? C'est-tu le Far West ailleurs, puis ici, ça va bien?
Bien, on peut raconter l'histoire d'une contrôleuse sur l'autoroute 50 dans le secteur de Mirabel qui, elle, a mangé une volée parce que quelqu'un a passé proche d'elle. Elle est partie en chasse après cette personne-là en disant... Tu connais pas ton corridor de sécurité, ben le gars est sorti puis il a sacré une volée.
Okay.
Ça arrive pas souvent, honnêtement, là, c'est pas quelque chose.
Mais t'as-tu l'impression qu'avec une arme à feu, ça aurait été différent?
Ça aurait peut-être été dissuasif.
Parce que, tu sais, je vais te dire quelque chose, là. Tu sais, je ne connais absolument rien au merveilleux monde du camionneur ni au merveilleux monde des contrôleurs routiers, mais je soupçonne le syndicat de vouloir, de un, armer les contrôleurs routiers, puis après ça, dire, ben vous savez quoi, les agents de la Sûreté du Québec, là, ils gagnent 100 000 $ par année, ben nous, on fait à peu près le même travail, on est armés, donc on veut gagner 100 000 $ par année. C'est-tu dans ma tête? Je suis trop paranoïaque? Ou...
Il y en a beaucoup qui ont la même pensée que toi. Est-ce que c'est ça? Il y a sûrement une partie de ça. Tu sais, un contrôleur routier... au début de l'échelle salariale, gagne à peu près 50 000 $ par année. C'est pas beaucoup quand on pense au risque, mais quand on pense à la job qu'ils font, et dans le haut de l'échelle, c'est 70 000 et plus, là, jusqu'à 75 000, quelque chose comme ça, je n'ai pas les chiffres exacts. La seule affaire, moi, tu sais, bon, c'est sûr qu'il doit avoir une portion salariale là-dedans, c'est peut-être un moyen d'arriver à avoir une meilleure paye, Mais il y a aussi le fait qu'à 2 heures du matin, moi, je ne voudrais pas faire leur job.
Mais sont deux dans leur véhicule? Sont jamais non. seuls à 2 heures du matin?
D'habitude, ils sont seuls.
La nuit aussi?
La nuit aussi.
OK, je pensais que c'était comme la Sûreté du Québec. La nuit, il n'y avait pas le droit d'être seul. OK.
Un patrouilleur de contrôle routier, ben, à moins d'une demande spéciale, mais ils vont être deux véhicules pour deux personnes. Là, okay. Fait que si moi, je pars et que toi, tu es l'autre contrôleur routier et qu'on s'en va, moi, j'intercepte un camion d'un chemin de campagne qui n'a pas nécessairement d'affaires là, j'ose avec le camionneur qui n'a pas le goût ben de me parler visiblement. Je peux avoir un doute en lui disant « ouvre tes portes ». Il ouvre ses portes, je m'aperçois qu'il y a des sacs de poudre blanche dedans. On ne sait pas c'est quoi, puis qu'il arrive un auto en arrière. D'après moi, ma vie vaut pas cher dans l'équation. Là. Fait que, puis de plus en plus, on entend parler. C'est pas encore, disons, marginal, mais de plus en plus, on entend parler qu'il y a des contrôleurs routiers qui interceptent une cargaison d'amphétamines. Quelque chose comme ça.
Mais de la dope.
De la dope. Puis, suite à ça, ben, ce qui arrive, c'est que, tu sais, moi, j'aime autant, personnellement, avoir une arme pour l'effet dissuasif. Le salaire, ça va être d'autres choses. Si je me fais tirer, le salaire ne vaut plus rien.
Ouais.
Mais d'avoir cet effet-là, en attente d'avoir calé la Sûreté du Québec ou un corps policier local, puis que ça va prendre 10 minutes, 7, 8, 10 minutes avant qu'eux autres arrivent, j'aime mieux avoir ça sur moi, qui peut risquer d'être dissuasif pour des gens qui voudraient s'en prendre à moi. Dans le jour, là, tu sais, je peux te compter que durant la pandémie, il y a des contrôleurs routiers, puis, tu sais, nos camionneurs ne sont pas toujours corrects, là, tu sais. Il y a des contrôleurs routiers dans la pandémie qui arrêtaient un camionneur, puis ils disaient « j'aurais besoin de ton permis de conduire ». Bien, ce qu'ils faisaient, ces gens-là, c'est qu'ils lichaient le permis de conduire. Tu sais, on avait toute une appréhension contre les germes de cette pandémie. Ils lichaient le permis de conduire, puis ils le donnaient au constable. Voyons, pour voir si ça se fait, là, tu sais. Fait que c'était comme, tu m'as arrêté, tu vas payer le prix, tout ça. Puis on a quelques cow-boys dans notre industrie, là. Faut pas mettre la tête dans le sable. Mais il y a des gens qui, pour eux autres, la loi, l'ordre, c'est pas tellement dans leur ADN.
Je comprends. Mais tu sais, moi, je suis un gars de stats. Là. Si tu me dis que c'est vraiment une problématique depuis 10-15 dernières années, année après année, il y a énormément de gens qui se font attaquer. Et là, la situation est insoutenable. Il y a 3-4 meurtres pour ce qui est de nos contrôleurs routiers. Puis il faut contrer ça. Là-dessus, je te suis. Mais j'ai pas l'impression que les statistiques leur donnent raison actuellement. Puis quand je parle avec des gars de la Sûreté du Québec, régulièrement sont appelés à assister les contrôleurs routiers. Oui. Puis il y a une bonne coordination entre les deux corps. De service. Moi, j'ai plus l'impression que le syndicat veut armer les gens en disant ouais, c'est dangereux, ils font un métier dangereux, puis après ça, il y aura des montants supplémentaires qui seront octroyés aux contrôleurs routiers qui vont permettre d'accoter ce que les agents de la Sûreté du Québec peuvent avoir comme salaire. Je veux te poser des questions techniques.
Partie, oui, par exemple, mais de l'autre côté, on n'est pas les seuls en Amérique du Nord qui sont armés, dans le sens où aux États-Unis, dans la majeure partie des arrestations ou des inspections par ce qu'on appelle les DOT, mais c'est des contrôleurs routiers, sont armés. Dans certaines provinces canadiennes, il y a des contrôleurs qui sont armés. Il n'y avait que le Québec, puis je ne me rappelle pas quelle autre province, là, qui ne sont pas armés. Mais pour le reste, c'est des gens qui sont armés. Peut-être que c'est pour aussi avoir un jour une augmentation salariale. Si c'est ça, tant mieux, mais il y a aussi l'effet pervers de dire « je vais me défendre comment avec ma petite bonbonne de poêle de Cayenne » puis que le walkie-talkie ne pogne pas parce que t'es dans une région éloignée.
Il y en a qui disent « munissons-les de taser gun, munissons-les de poivre de Cayenne ». Il y en a qui sont pour les armes à feu, c'est bien correct. Là. Mais moi, je me posais juste la question, qu'est-ce qui justifie ça? On n'a pas les statistiques qui justifient ça. Pourquoi on s'en va là-dedans? Mais j'ai des questions techniques pour toi.
Vas-y.
J'ai entendu un contrôleur routier, je pense que c'était sur les ondes de TVA, qui mentionnait qu'à partir du moment où l'individu avait une plaque F, ça embarquait dans leur travail de pouvoir les contrôler. Est-ce que c'est vrai pour les véhicules? Là? Exemple, moi, je ne sais pas, mon camion, j'ai une plaque F pour mon entreprise. J'ai toujours eu l'impression que j'avais affaire avec les divers corps municipaux ou encore la Sûreté du Québec. Est-ce que si j'ai une plaque F, un contrôleur routier peut m'arrêter moi aussi, Ben?
Il pourrait t'arrêter, mais là, j'ai un invité en onde qui veut parler. Là.
Ah, ben allons-y. Tu vas me le présenter, mon ami?
Allez-y, monsieur Denis.
Mais non, mais tu voulais me parler tout à l'heure, ça fait que c'est fait, on peut se parler. Bonjour, ça va bien?
Quel honneur, Denis Thériault. Je peux-tu te dire une affaire, Denis?
Honneur partagé.
Il s'en fait plus. Ben, dans ma génération, du moins, des journalistes comme toi qui sont dédiés à leur travail, j'ai un très grand respect pour toi. Merci de nous jaser.
Ben, je te remercie beaucoup, mais je dois te dire qu'au bureau d'enquête, au journal, à TVA, il y a vraiment une équipe solide. Je ne suis pas tout seul dans ma gang, mais quand même, merci.
Fait que c'est fait, c'est fait.
Mais vu que comme je suis là, je peux parler un petit peu du GIA demain soir. Il me semble que j'ai entendu des questions.
Oui, puis je vais répondre à tes questions après, Yann. C'est-tu correct?
Allez-y.
Ouais, là, je suis impoli, là, j'ai sauté
non,
dans
la discussion. Non, c'est correct. C'est ça de la radio.
Oui, hein, c'est, je sais, j'en ai fait aussi. Là, j'aime beaucoup, en passant, j'aime beaucoup la radio. Faisons quelque chose. Benoît, oui. Complète ta réponse, là, parce qu'on ne okay. laissera pas sans suspens.
Okay.
Puis après ça, ben, vous poserez vos questions, puis je vais vous dire ce que je peux vous dire.
Un contrôleur routier, Yann, peut arrêter n'importe qui, même une plaque 1-2-3 ABC, pour tout ce qui est le volet arrimage, OK?
OK.
Ça veut dire que tu te promènes le 1er juillet avec ta Lada 73 et puis un trailer homemade. Tout est à côté, là, tu sais, t'as le frigidaire sur le top de la Lada, c'est accroché. Le contrôleur routier peut t'intercepter à tout moment pour des raisons de sécurité. Une plaque F, il peut t'arrêter, mais une plaque F n'arrête pas sur une balance en raison du poids du véhicule. Les lois sont régies par poids de véhicule, les masses nettes, c'est 4500 kilos et plus. Je te donne un exemple, ce qu'on appelle des 3/4 de tonne ou des 2500. Règle générale, puis là, regardez sur vos immatriculations. J'ai un 2500, moi, un 3/4 de tonne et je suis 6 kilos en dessous du 4500.
Oh, okay.
Donc, je ne suis pas assujetti aux balances. Puis les constructeurs le savent, ils les fabriquent, ils vont enlever quelque chose pour peser, que la masse-nette puisse peser moins. Mais si j'accroche une remorque commerciale à mon véhicule, je viens d'être obligé d'arrêter à une balance. Donc, ce qu'on appelle un 2500 plaqué L, parce qu'il ne se plaque pas F, le L, lui, va me soumettre au nombre d'essieux et au poids nominal brut. Ça veut dire que, bon, ben, je suis obligé à 4500 kilos d'arrêter aux balances, de me faire un logbook et de suivre la réglementation qu'un camionneur fait, à moins de rester en dedans du 100 000 ou du 160 km autour du port d'attache. Mais pour ce qui est F, tu n'arrêtes pas aux balances, mais un contrôleur routier, tu n'auras pas de log à faire, tu n'auras pas de réglementation comme ça, mais mettons que tu as piné un trailer, bon, on pourrait faire le tour puis regarder si tu es correct et le poids total de tout ça, parce que le trailer, on pourrait l'avoir pitonné, il est commercial, bien, on pourrait avoir organisé quelque chose en conséquence.
Je comprends. Ce matin, je lisais le Journal de Québec, Journal de Montréal, puis ça mentionnait qu'il y avait environ 440 camionneurs qui, chaque jour au Québec, omettent d'arrêter aux balances. Comment ça peut arriver? Puis pourquoi les gens sont outrés de ça dans l'industrie?
Bien, dans notre industrie, on est supposé être des professionnels, right? On a fait un reportage avec GIE, on était tous des professionnels. Notre image est très importante dans notre industrie. Elle prend 10 ans à se construire, puis elle prend 30 secondes à se démolir. Là, actuellement, sachant très bien que les contrôleurs routiers, par le jugement qu'ils ont reçu, d'être armés, sinon bien, rester au port de balance, au poste de pesée routière, bien, ils ne peuvent plus aller partir après un camion, ils ne peuvent plus sortir du port de pesée routière pour aller faire des inspections aléatoires un peu partout, là où que les gens contournent les balances, tout ça. Fait que ce qui arrive, c'est qu'il y en a qui le savent, et là, puis ça se promène sur les réseaux sociaux, ils envoient la main au poste de pesée routière. « Salut! » Puis ils se filment en plus. Fait que là, tu es filmé, tu contreviens un règlement, pas le droit d'avoir le cellulaire dans les mains, tu contournes une balance. Tu viens d'avoir un beau ticket si jamais on a pris la photo ou la vidéo de ton véhicule. Puis il y en a que c'est comme un défi personnel. Et on ne doit pas utiliser... Là, je comprends, là, tu sais, il y en a qui n'aiment pas ça des contrôleurs routiers. Ils n'aiment pas la réglementation, ils n'aiment pas d'avoir des tickets. Puis là, ils pensent qu'avec les guns, ils vont tirer partout, tout ça. Mais vous devez faire votre job. Puis dites-vous une chose, ça se peut que les postes de pesée routière avec la caméra avaient tout le temps. Et qu'on reconnaisse un troc de transport Yannick Marceau, un beau troc rose, mettons, là, rose pétant fluo. Pas bien dur lorsqu'il y aura un règlement dans toute cette histoire-là d'aller faire des inspections en entreprise, dire le, disons, 20 mars, t'es passé à 18h54 et c'était ça le numéro de camion. Donc, dis-moi qui est au volant, il va avoir une infraction. L'entreprise a une infraction. Il y a des points à la commission des transports qui revolent aussi parce qu'on est pointé un peu comme votre permis de conduire là, à la commission des transports. Fait que visiblement, tu vas payer de tout bas de côté et okay. tu vas être probablement dans la mêlée des contrôleurs pour un petit bout après. Là.
Parfait. Accueillons Denis Thériault de TVA demain à 20h sur les ondes d'LCN. Il y aura l'émission JE. Vous vous intéressez au monde du camionnage. Qu'est-ce que tu peux me dire, Denis, par rapport à l'émission qui va être diffusée demain?
Demain, 20h, c'est à TVA. Par contre, c'est LCN, 13h, 19h, samedi et dimanche. Alors, il y a plein d'opportunités pour ne pas manquer cette émission-là. En fait, c'est juste une petite mise en situation. Ça fait trois fois que je fais des émissions. Je fais un bout de temps que je suis à JE quand même. Là.
Ouais.
Ça fait trois fois que je fais des émissions sur le camionnage, sur l'industrie du camionnage et tout. La première émission que j'ai faite, ça fait quelques années. On jasait avec Benoît, ça fait un peu plus tôt. C'était les gens qui décidaient d'en finir en fonçant dans un camion. Et puis, on montrait toutes les facettes de ça, l'impact que ça avait sur le camionneur et tout. C'est vraiment... Puis, c'est des situations dramatiques qu'on avait mis de front. Mais c'était un peu pour dire aux gens qui, un jour, désespérés, pourraient être tentés de faire ça, bien, avant, si on leur dit, écoute, il y a des conséquences, parce qu'ils ne les voient pas, les conséquences, quand ça arrive. Alors, ça, c'était le premier projet. Le deuxième, c'était assez facile. Hein? C'est un peu la sécurité autour du camion. Je pense que les camionneurs qui écoutent savent très bien que les automobilistes ne tiennent pas beaucoup compte des préoccupations. Puis on pense qu'on est vu partout. Puis dans cette émission-là, on avait en tout cas, des images, entre autres, des dashcams, comme on dit. Puis on avait fait du visuel. À l'époque, on avait l'hélicoptère TVA. On avait filmé d'en haut pour voir un peu comment ça se passait. Puis la leçon à retenir pour ça, là, moi, je résumerai ça en quelques secondes. Si, concernait les angles morts des camions, là, puis vous qui êtes au volant des 53 pieds, j'imagine que vous allez être d'accord. Si on voit les yeux du camionneur dans le miroir, c'est sûr qu'il nous voit. Sinon, bien, fais attention parce que peut-être qu'il ne te voit pas puis il pourrait faire un geste qui pourrait te compromettre. Fait que ça, c'était les deux premiers projets. Là, on tombe maintenant. Un projet fait, entre autres, avec Benoît. Benoît était très généreux. En passant, il conduit ça, les camions. Oh! On était en sécurité avec. On est monté avec Benoît à Brampton, en Ontario.
Ouais. Je suis
revenu avec la raison du Brampton. Là. Mais on entend beaucoup... les camions, ça me semble que c'est de plus en plus dangereux sur les routes. On voit plus de comportements un peu particuliers et autres, et autres, et autres. Il y a une raison à travers tout ça. Ça fait que le défi de ce projet-là que j'ai fait avec mon collègue du Journal de Montréal, Francis Alain, là, qui, lui, est un spécialiste des camions parce qu'il écrit souvent sur l'industrie, sur le chauffeuring et tout. Et puis là, ben, on met en lumière, on prend un petit peu de temps pour certaines collisions. Certaines se sont terminées de façon plus dramatique que d'autres pour montrer les enjeux, pour démontrer les enjeux. Il faut toujours penser aux conséquences. Moi, quand je vais dans un projet comme ça... Si on parle de certains comportements de camionneurs qui sont dangereux, et puis là, j'insiste, on ne dit pas que tout le monde conduit de cette façon-là, ce n'est pas ça du tout dont il est question. Puis vous qui conduisez actuellement un camion, qui nous écoutez, savez très bien qui sont ces camionneurs qui ont un comportement un peu différent, qui peut être à risque pour les gens alentour d'eux. Vous le savez, c'est qui? Pas mal plus que nous qui ne voyons que des gros 53 pieds autour de nous sur l'autoroute.
Ouais.
Alors, la conséquence... Je crois qu'on l'a très bien démontré. Le phénomène du chauffeur Inc., mon collègue Francis Alain, signe une série d'articles diffusés dans le Journal de Montréal, Journal de Québec, sur quelques jours, où là, il va être plus question des questions fiscales et autres, parce qu'il y a des enjeux importants là-dedans. Et à JE, on a choisi d'y aller plus sur le côté de la sécurité. On est allé à Brampton, en Ontario, parce qu'on donne en exemple deux accidents où les gens viennent de Brampton, mais dans le fond, ce sont des nouveaux arrivants, là, bien souvent, qui vont là. Hein, c'est comme un centre de tri. Puis pour y être allé avec Benoît, là, c'est vraiment particulier. Il y a du camion au pied carré, là, comme on dit en français, dans ce coin-là. Puis ces gens-là arrivent ici, ils veulent travailler, puis ils ont le droit de travailler, l'enjeu n'est pas là, mais ils tombent souvent sous le joug de compagnies un peu... En fait, le respect n'est pas là tout le temps. On va y aller comme ça, puis je vous laisse imaginer jusqu'où ça peut aller. Fait qu'ils n'hésitent pas à mettre les gens sur la route. Puis ça, on a les témoignages de ça là-bas, de gens qui l'ont vécu, des gens qui aident ces camionneurs-là. Puis ils vont sur la route, pas beaucoup formés, avec on les pousse pour qu'ils fassent trop d'heures dans des camions dont l'état est très discutable. Fait que la raison pour laquelle on est allé vérifier ce qui se passait là-bas, c'est un peu ça. Puis on a d'autres cas aussi qu'on expose et on amène la réflexion sur la grande question actuellement au Québec, il ne faut pas avoir de formation, il ne faut pas avoir de cours de conduite pour prendre le volant d'un 53 pieds.
Okay. Ça va faire énormément réagir, ce reportage-là de J.E. demain sur les ondes de TVA. Tu m'as dit 20 heures sur les ondes de TVA. Puis pour ce qui est de samedi, il y a deux heures différentes là, qui sont disponibles sur LCN. Toi, personnellement, est-ce que c'est des choses que tu étais au courant, Denis, du fait qu'on était capable de se faire délivrer un permis pour devenir un camionneur en quelques heures?
Ben, en fait, okay, on s'entend, c'est pas nécessairement à quelques heures, ça prend un minimum de connaissances. Mais vraiment, là, c'est ce qui a donné l'envol au projet. Tu sais, on regardait ça, tu sais un peu comment ça fonctionne, là, on regarde les différentes possibilités, quel angle on peut attaquer. Tout à coup, on se rend compte, là, moi, je le savais pas, là, c'est que tu peux avoir un permis de conduire pour la classe 1, pour les camions remorques,
ouais,
mais tu n'as pas besoin d'avoir suivi de cours de conduite. Suite là, il y a des questions à se poser. C'est pas qu'ils s'en donnent pas en passant. Il y a deux excellentes écoles au Québec. Là. C'est un cours de je ne sais pas combien d'heures. Là,
plusieurs 615.
615 heures.
Ouais.
Fait que, mais cependant, si tu ne passes pas par là, si tu as bien étudié ton petit livre qui explique la ronde de sécurité, hein, tu as trois tests à passer. Donc, il y a la ronde de sécurité, là, tu fais le tour du camion, puis ça peut briser, puis ça, si ça brise, ça va mal aller, puis bon. Fait que ça, il faut que tu réussisses ce test-là. Le test théorique, ben, tu l'étudies comme il faut, tu le passes. Puis après ça, ben, tu vas faire le tour du quartier de maison avec le gros camion, avec l'évaluateur de la SAAC, puis tu reviens. Puis si tu as bien fait ça, il te donne ton permis. Est-ce que ça veut dire que tu es bon pour aller en Californie puis revenir en passant dans des places vraiment impossibles avec un camion puis avec autant de talent que Benoît? Moi, je pense que non. Puis je ne suis pas tout seul à le penser. Fait que ça prend plus que ça. L'enjeu est là. On a posé la question, qu'est-ce qui se passe avec ça? J'ai envie de dire, on l'écoutera J.A. demain, on va le savoir. Là.
Ben oui.
L'enjeu est vraiment là. Puis il y a quelqu'un qui témoigne dans l'émission, là, qui connaît ça, qui est vraiment là-dedans. Il dit, si il y a des gens qui vont passer 5 fois puis 10 fois l'examen de conduite à la SAAC, puis au bout de 10 fois, il va réussir. Mais est-ce qu'il va réussir parce qu'il est bon, il a de la compétence, puis il a le bagage pour aller où il veut avec le camion? Pas nécessairement. Il va surtout réussir parce que là, il connaît les questions par cœur, puis il connaît les réponses par cœur. Puis à un moment donné, à force de faire le tour du quartier avec le gars, il vient qu'il connaît les coins. Hein, t'sais. Moi, j'ai conduit un camion à 2 reprises. Dans un reportage sur les angles morts, là, j'ai le 53 pieds. J'avoue qu'à l'école de conduite où j'étais, il y a une piste à circuit fermé, puis j'ai brisé la pelouse. Bon.
C'est juste l'expérience.
Puis, j'ai eu quand même le privilège de faire un petit bout en circuit avec Benoît, un circuit fermé avec Benoît.
Ouais.
Ça c'était un peu particulier parce que je te confirme que je suis capable de. Comment on dit ça? Moi je connais pas le langage exact. Là. Si on était avec pas tant de gens qui nous écoutent, je dirais que je suis capable de piner la remorque à l'arrière. Là,
pin des pins,
mais c'est ouais. Ça. Alors, amarrer. Voilà, je suis capable d'amarrer la remorque
à l'arrière. Personne ne va te comprendre dans le camionnage. C'est pin ou des pins.
Ça, là, j'ai réussi à le faire, puis Benoît en est témoin.
Oh oui.
Oui, fait que, tu sais, est-ce que ça ferait de moi un bon camionneur? J'en doute, non. Mais bon. Mais c'est fascinant comme milieu.
Est-ce qu'on a des statistiques concernant les élèves qui proviennent de ces dites écoles-là, entre guillemets, puis les impacts sur nos routes au Québec, pour ce qui est des incidents? Je regardais ce qui se passait dans le secteur de la Beauce, une femme qui est malheureusement décédée, autour de 30 ans, quelqu'un qui, visiblement, n'était pas capable de morcer bien son virage, qui a échappé son chargement sur la pauvre dame, puis c'est encore une dame qui embarque dans les statistiques, mais est-ce qu'on a des statistiques qui prouvent qu'il y a certains élèves de certaines écoles de conduite qui produisent plus d'accidents sur nos routes?
Oui, d'abord, pour cet accident, c'est tellement triste. Là, j'ai rencontré la dame, là, vraiment. Ouais. L'enjeu du projet qu'on fait, c'est que des statistiques, il n'y en a pas vraiment. Et la raison est fort simple. Ce que je dis depuis tantôt, c'est que le cours de conduite et la formation ne sont pas obligatoires pour avoir le permis de classe 1. Donc, pourquoi ils vérifieraient? C'est pas obligé. C'est pas obligatoire. On le sait pas. Il n'y a pas de chiffre en disant... Puis on a posé la question, là, maintenant, cette année, de la poser parce que la réponse, on le sait pas. Mais il n'y a pas de statistique qui permet d'établir que sur la route, il y a tant de conducteurs qui sont formés puis tant de conducteurs qui ne sont pas formés. Ça s'en vient. Mais encore là, ça s'en vient pour les nouveaux conducteurs. Est-ce que les anciens conducteurs qui sont pas bons, là, il y en a quelques-uns, hein, au moins 2-3, là, vraiment qui peuvent représenter un risque, là, ben, est-ce qu'il y a quelque chose pour eux? Peut-être. Ça, dans l'émission JE à 20h demain soir, on va avoir une piste de solution pour ça aussi. Mais j'insiste, hein, c'est pas C'est pas tous les chauffeurs qui sont comme ça. C'est pas tous les camionneurs qui sont comme ça. Il suffit de se promener sur les routes. Il y a du professionnel au pied carré derrière les volants de 53 pieds. L'enjeu n'est pas là. C'est qu'il y a des personnes... On en voit de plus en plus pour différentes raisons qu'on va vous aider à comprendre demain soir un peu, là. Mais la majorité, c'est quand même, ce sont quand même des personnes qui... On est bien contents, hein, qui amènent notre marchandise dans notre ville puis à notre magasin pour aller chercher nos affaires.
Ouais.
Sont essentiels.
Denis Thériault, j'ai des espions qui me demandent de te faire parler sur un certain incident qui est survenu. On me dit « accident de Minoune ». Est-ce que ça te dit quelque chose?
Ah, c'est triste, ça. C'est tellement triste, ça. C'est le surnom de M. Luneau. C'est un conducteur.
Ouais.
On a parlé à son patron. J'en parle, j'ai des frissons.
C'est incroyable. C'est arrivé dans le nord de l'Ontario.
C'est arrivé dans le nord de l'Ontario. C'est arrivé à la mi-janvier. Puis tu sais, maintenant, les camions ont tous des caméras, des dashcams.
Ouais.
On peut appeler ça de même, mais c'est des caméras à l'intérieur qui permettent de voir ce qui s'en vient pour qu'on ait eu accès à ces images-là puis à d'autres images aussi du genre. Puis ce monsieur-là, puis tellement apprécié là, dans sa compagnie et tout, on m'a expliqué pourquoi on l'apprécie. Tu sais, souvent, on dit « Ah, c'est un bon gars. » Oui, mais quand on te l'explique, là, tu sais, puis sa manière de travailler et tout, puis il partait sur un grand parcours, il allait livrer à deux, trois places de la machinerie en Alberta et tout, puis il a passé... C'est quoi, Benoît, la route là, que tout le monde appréhende?
La 11-17.
La 11-17 en Ontario.
Une partie de la 11, une partie de la 17.
C'est ça, c'est ce qui permet de... Quand tu t'en vas dans l'ouest, tu montes vers le nord de l'Ontario, j'imagine que ça va plus vite, là, ça va mieux. Puis c'est un grand bout où ça croise. Puis sans raison, à la dernière minute, il y a un camion qui arrive en face, il a donné un coup de volant, face à face, et puis le monsieur... Le conducteur, M. Luneau, là, qui est quelqu'un du centre du Québec, a perdu la vie dans cet accident-là. Et son patron et le fils de son patron témoignent avec beaucoup d'émotion. C'est vraiment... et surtout, nous aide à comprendre un peu ce qui ne va pas sur les routes. Puis ouais. Le monsieur en question, M. Forcier, conduit des camions depuis...
Christian, ça fait des années.
Il faut au-dessus de 40 ans qu'il conduit des camions.
Ouais.
Puis il ne voit plus le métier de la même façon. Puis on va comprendre à l'émission JE pourquoi. Mais à la fois de témoigner, de nous expliquer, de nous permettre de comprendre ce qui s'est passé et surtout de nous partager ce qui se passe vraiment sur les routes, parce qu'on s'entend qu'un monsieur qui conduit des camions depuis 40-45 ans, il met les choses en perspective. C'est quand même très pertinent. C'est le genre de témoignage, comme Benoît aussi, qui nous a beaucoup aidé à voir certaines choses et tout. Qui aide les gens à comprendre. Parce que le but là-dedans, c'est d'aider les gens à comprendre ce qui s'est passé. Fait que, ouais, c'est le surnom qu'il avait, j'imagine, les surnoms de CB là, à l'époque. Ouais. Ça doit venir de là. Mais M. Luneau était, à ce qu'on nous dit, un très bon camionneur. Puis il a perdu la vie sur la route que détestent de nombreux camionneurs au Québec.
Merci beaucoup, Denis. On t'écoute demain sur les ondes de TVA à partir de 20h. Ben, j'ai le goût de te poser la question. Qu'est-ce qui détermine un bon camionneur? C'est le cours, bien entendu, qui va servir de base, mais par la suite, après combien de temps quelqu'un peut dire « Moi, je suis un bon camionneur, j'ai mes mois d'expérience, je suis capable d'aller faire, comme disait Denis tout à l'heure, capable d'aller en Californie, un Québec-Californie sans problème. » C'est combien de temps?
0-6 mois, là, tu vas t'arracher les cheveux de sa tête. Pourquoi? Parce que t'apprends. T'apprends et t'apprends à la dure. Qu'à soir, tu ne prendras pas de douche parce que tu as mal calculé ton temps, tu as mal calculé tes arrêts et que tu vas coucher sale dans ton lit parce que c'est comme ça. Fait que là, tu sais, tu te traînes des petites serviettes humides, tout ça, tu sais, tu te dépends. 6 mois et plus, tu vas commencer à connaître les destinations, tu vas commencer à connaître le rouage, tu vas connaître les clients, tu vas avoir arrêté d'emprunter le trottoir avec ta remorque, avec les pneus arrière de ta remorque, tu sais. Tu vas avoir beaucoup d'expérience qui va rentrer. Après un an, là, moi, je présume qu'il va te rester quelques petites affaires à apprendre, là, mais certainement qu'il faut être fonceur quand tu es camionneur. Puis il faut aussi toujours appréhender de ce qui peut arriver. Tu t'en vas sur l'A20, ça a l'air un peu bizarre comme ça à penser. C'est à 20, c'est à 40. Et qu'il y a une sortie qui rentre, là, et les gens, ben ils s'en viennent sur toi. Ils s'en viennent sur toi. Puis là, ils pensent que... Bon, au lieu d'accélérer, ben, ils se mettent égal à toi. Puis là, qui va passer? Fait que là, il faut t'appréhendre un peu ces mouvements-là. Tu te tasses dans la voie de gauche, tu les laisses entrer. il faut aussi, quand il arrive des sorties, bien, appréhender qu'il y a des véhicules qui vont te couper pour prendre la sortie. Fait que là, ça devient un peu de l'expérience. Mais moi, je prétends qu'après un an, surtout avec les CFTC, CFTR, c'est les écoles de formation publique reconnues au Québec qui mène à l'obtention d'un DEP, bien, quand tu finis par obtenir le DEP, un an sur la route, on va te dire, tu as un bon bout de chemin de fait, bien plus que quand tu vas prendre la formation, je ne veux pas dénigrer les écoles qui le font, là, mais une formation de 40 heures, 50 heures, 60 heures, puis après ça, go, va-t'en. Les compagnies là, sont frileuses à vouloir embaucher des gens comme ça. Mais, tu sais, je le dis tout le temps, j'ai eu des élèves dans ma vie, bien, le premier 6 mois, là, donnez-vous la chance. Sacré tant que vous voulez, pleurez s'il faut, mais donnez-vous la chance d'être en mesure de pouvoir apprendre. Puis un bon camionneur, tout au long de sa carrière, va chercher à apprendre de nouvelles techniques, de nouveaux virages, tout ça. Puis tant aussi longtemps que vous allez avoir peur de conduire votre camion, vous allez être d'excellents chauffeurs. Ça glace l'hiver, ça neige l'hiver. Oui, on est pesant. Oui, on est capable de rouler. Oui, on est capable de faire beaucoup de manœuvres, plus qu'un automobiliste. Mais quand vous avez peur de votre camion, ben vous allez respecter votre camion puis vous allez rester sur les autoroutes.
Ouais. On voit souvent un camionneur seul dans son véhicule. Parfois, on en voit deux là, sur certaines autoroutes, là, surtout pour du Canada, États-Unis. Ça arrive-tu qu'on en voit trois? Parce qu'il y a un auditeur, la dernière fois qu'on s'est parlé, toi et moi, sur les ondes hertziennes, qui nous a dit, tu sais, Ben, il parlait de duo tantôt, mais moi, je vois qu'il y a des trios aussi. Ça veut dire que le camion n'arrête jamais. Là.
Les trios, là, Yann, là, c'est pas nécessairement... Je dirais que c'est même pas 1 % de ce qui est notre industrie ici au Québec. Puis quand je dis 1 % je vais peser mes mots. Là. Puis du côté de l'Ontario, bien là, on va parler d'abus. Dans le fond, on va en mettre 3 dans le camion pour qu'il y ait la pas du gain de la part de l'entreprise. On va abuser des camionneurs, on va les mettre 3 d'un truck. Peut-être qu'il y en a un qui est meilleur que les autres, puis il va lui montrer, c'est correct. Mais 3 d'un camion, là, imaginez-vous, OK, il y a 2 couchettes d'un camion. Il y en a une à l'espace arrière qui est à peu près au niveau du siège, puis l'autre qui est en haut, là, tu sais, où ce qu'il faut grimper pour aller en haut. Donc, cette couchette-là, je peux vous dire une chose, c'est que quand vous roulez puis vous vous couchez dedans, ça brasse en simonac. Pour ne pas dire que si vous avez le mal de mer, vous allez l'avoir solide en haut, parce que ça brasse trop. Là. Comment vous vous couchez? Certainement pas en cuillère. Là. Les deux sur le lit d'en bas, c'est un lit qui est un lit twin là, en bon français. Là. Je pense que c'est 39 pouces, quelque chose comme ça de large, 30-40 pouces de large. Fait que vous n'irez pas vous coucher en cuillère. Fait que là, si vous tournez les 3 en rond, c'est peu d'espace d'un camion. 2, c'est correct. Il y a du team en masse qui se fait ici en Amérique du Nord. Mais 3, ça commence à être pénible. Puis il y a des fois où ce que le 3 devient aussi, on n'arrête pas, on n'arrête jamais. On perce le plancher, on met un tuyau et vous vous imaginez que les excréments sortent par là parce qu'on n'arrête pas, on n'a pas le temps d'arrêter. Il faut que le truck roule tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il arrête seulement pour se ravitailler en carburant. Puis j'ose croire qu'il ne se prend pas grand douche là. Puis le troc continue, puis continue, puis continue. Fait que c'est de l'abus, puis je trouve ça dégueulasse de parler de ça, là, mais c'est de l'abus d'humains qui viennent ici dans le but d'améliorer leur sort, puis dans le but d'améliorer leur niveau de vie. Puis là, ben, y a des entreprises qui abusent de ces gens-là par bonne ou mauvaise expérience. Mais tu sais, moi, je serais jamais capable de dire, Marceau, tu vas embarquer avec 2 autres, puis tu roules, là, tu sais. Il faut être le plus vite possible du point A au point B. C'est dégueulasse de penser ça, mais ça arrive dans notre milieu.
Okay.
Mais on dit que c'est répandu plus souvent dans la région de Winnipeg.
Winnipeg.
Qu'on pourrait penser dans la région de Brampton.
OK.
Bizarrement. Y a une entreprise qui me disait, il dit, fouillez dans la région de Winnipeg, vous allez avoir ben des cas comme ça. Dans le reportage de JE, ben, ça ne sera pas filmé parce que ça n'a pas été filmé, mais je vais d'un garage. Puis je demande, est-ce que ça arrive que tu vois, tu sais, le tuyau en question. Puis je dis pas ça parce qu'on est un peu après l'heure du souper. Là. Mais ça arrive-tu quand tu répares un camion et c'est déjà arrivé? Ça arrive moins. Puis lui ici m'a confirmé que beaucoup d'entreprises ou beaucoup de gens de la région de Winnipeg, bien, en mettaient 3 dans le camion pour que ça arrête pas de virer. Là.
Tabarouette.
C'est dégueulasse de penser ça.
Oui, y a-tu, mais y a-tu, mettons pour un duo là, du Québec, oui. Là, y a-tu un avantage? Est-ce que c'est payant être en duo ou c'est plus payant être seul?
C'est très payant.
Duo?
Dans le sens où, en team qu'on appelle nous autres, là, ouais. Duo, bon, mettons qu'on est deux chums ensemble. On décide qu'on part, on va aller faire de la Californie, toi puis moi. Et là, le camion va arrêter seulement, on va faire des cadres de conduite d'11 heures maximum chaque. Fait que le camion va virer 22 heures. Mais on sait pertinemment qu'à cause du trafic puis à cause des conditions météo, ça se peut qu'on aille du ralentissement. Puis à chaque quart d'11 heures, on va arrêter ravitailler le camion, on va aller prendre une douche, puis on va changer de conducteur. Ça veut dire que toi, tu as fait les derniers 11 heures, mais tu t'en vas dans la couchette en arrière, puis moi, je reprends le volant, puis je fais un chiffre, un quart de travail d'11 heures. Fait que ça va prendre peut-être 50, entre 50 et 55 heures montant en Californie, aller, 50 à 55 heures, revenez. Mais là, le camion vire, mettons, entre 20 et 22 heures, c'était des pégales par jour. Fait que le reste, c'est de la douche, c'est du carburant, ça peut être un arrêt pour manger, un arrêt repos, parce qu'on est obligé de prendre des pauses d'une demi-heure par chiffre d'11 heures. Mm-hmm. Fait qu'il va falloir arrêter, prendre une pause. Je connais des gens, là, sans les nommer, là, qui ont passé le cap des 100 000 chaque en duo, en team. C'est beaucoup de sous, là.
Vraiment?
Calculer comme tu veux. Je comprends, ils roulent souvent, ils roulent longtemps, ils le font. Mais, tu sais, ils sont pertinemment en couple ou en chum. Puis la beauté de la chose, c'est qu'on peut se timer, toi puis moi, puis dire, OK, on est jeudi aujourd'hui, on part-tu lundi, Yann? Oui, OK, parfait, on donne notre disponibilité. Puis les compagnies le font, puis c'est super cool.
Ça doit juste être dur sur le couple, là. À un moment donné, t'as plus rien à te raconter.
Bien, on penserait ça, OK? Mais démystifions les mythes. Ça veut dire que, mettons que j'embarque avec la belle Monica, j'en ai fait un dernièrement, là. Tu sais, j'étais à Détroit, puis tout ça. Je me suis payé un petit trip, là, tu sais, ouais. En camion. Puis oui, effectivement, c'est petit. Mais quand t'es deux qui conduis, Monica conduit pas, mais mettons qu'elle reconduit, le temps qu'elle conduit, moi, je dors. Fait que elle arrête tout ce qu'elle veut arrêter. Elle va prendre le temps qu'elle veut prendre pour arrêter. La seule contrainte qu'on a ensemble, c'est de livrer à bonne heure. On est parti peut-être 12 heures, 15 heures avant notre temps, parce qu'on calcule un peu notre temps. Puis là, on va arriver 12, 15 heures avant la livraison chez le client. Fait que des fois, plus proche, une journée avant la livraison, bien, on peut arrêter, flâner un peu plus au truck stop ou arrêter d'un endroit X puis prendre notre temps. Fait que ça pourrait être une belle option.
Ça peut compenser.
Ça peut être un centre d'achat, ça peut être... Ouais. On pourrait même aller jouer au golf, Yann, si on voudrait. Là.
Ah oui, bon, c'est intéressant. Ça commence à être de plus en plus intéressant. Benoît Terrien, on va faire une courte pause, si tu le veux bien. Je rappelle aux auditeurs que ce soir, on a le plaisir d'être de jaser avec la belle gang de Truck Stop Québec, qui est une entreprise qui s'occupe de tout ce qui touche le camionnage au Québec. Truckstopquebec.com, c'est encore bon, ça?
Oui, puis sur Facebook, 326 000 amis.
Ah oui?
Devenez amis avec nous.
On revient tout de suite.
Marceau, le soir.
Boulevard 102.1.
Tous les vendredis, dans Gravel, dans le retour, on a l'immense privilège de recevoir Pierre Houde. Un vrai couteau suisse. Parce que, oui, vous le connaissez pour le hockey et la F1, mais il peut aussi vous parler musique, bonne bouffe et vin. Il peut même devenir votre conseiller voyage.
Mais ça a l'air le fun à Salt Lake City.
Il avait l'air d'avoir de l'ambiance.
C'est cool. On dit « keep Austin weird
oui. ».
Keep Salt Lake weird », mais de la bonne façon, je le dis avec affection. Mais c'est tellement cool. J'ai jamais mais vu autant de barbe à la ZZ Top, Denis.
Non, 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 non.
Je te jure, il y en avait 3-4 par restaurant.
Pierre Houde, votre incontournable du vendredi.
Boulevard a maintenant ses nouveaux classiques.
Max qui scrape une toune.
Les politiciens qui sont beaucoup trop contents de venir en entrevue parce qu'ils écoutaient Reg dans le temps.
Je suis très fébrile d'être ici parce que je le disais. Oui. Moi, c'est comme si je rencontre une idole de jeunesse parce que je suis une enfant de musique plus.
C'est moi tout excité de rencontrer Mme Guilbeault.
Pierre Audrey qui nous révèle un petit peu trop de détails sur sa vie privée en onde.
C'est ridicule.
Mais surtout,
l'organisation de concours incroyable.
Oui, Boulevard vous prépare encore un concours vraiment excitant.
Émoji d'aubergine, émoji de goutte d'eau.
Ah, oh, ouais.
Ah, calme-toi, Max. Tout le monde va rester habillé.
Restez à l'affût des indices dans les prochains jours, puis on va faire ensemble le grand dévoilement du concours en collaboration avec Desharnais Pneus et Mécaniques dans Rage Against le matin le 24 mars.
Émoji de tête en train d'exploser et un émoji ébloui.
Boulevard 102.1.
Confiez votre peau aux Cliniques Viva. Pour un temps limité, les traitements visage sont à 25 % de rabais. Taches pigmentaires, acné, texture, fermeté, nous avons les meilleures technologies. Cliniqueviva.com.
Quel est le point commun entre le Mazda CX-5, le CX-30, la Mazda 3 berline et la Mazda 3 Sport 2025? Ils ont tous été nommés meilleurs choix par Protégez-vous. Oui, Protégez-vous les amis à l'épreuve pour le raffinement, la performance, la sécurité, la fiabilité et bien plus encore. Faites vite, prenez le volant de l'un des meilleurs choix de Protégez-vous et profitez d'un taux de 2,9 % au financement à l'achat jusqu'à 36 mois. Sur approbation de crédit, des conditions s'appliquent. Détails chez votre concessionnaire Mazda.
Moreau PRS est le plus important détaillant de solarium à Québec et à Lévis depuis près de 40 ans. Vous voulez du sur-mesure et des matériaux de haute qualité pour votre projet? Pour tout ce qui est patio, rampe et solarium, c'est Moreau PRS.
Du 21 au 23 mars, c'est le deuxième salon du vélo de Québec. Vélo, voyage, vêtements, accessoires, conférences et pistes d'essai, avec plus d'une centaine d'exposants en centre de foire exposité, de la route à la montagne, tout y est. Billets sur salondvelo.com.
Je vois une maison, une hypothèque et plus d'argent dans vos poches. Je vois aussi qu'on vous donnera de bons conseils. Un ami peut-être? Oh non, un courtier.
Votre courtier multiprêt hypothèque, le meilleur allié pour votre renouvellement.
La nature vous intéresse? Rendez-vous au Salon de la forêt les 22 et 23 mars de 10h à 16h au pavillon Desjardins de l'Université Laval. Plusieurs exposants seront là et c'est gratuit. Info au ssf.ffgg.ulaval.ca.
J'ai les meilleurs collègues au monde. Mon emploi? Je l'ai trouvé au Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse.
Trouvez-vous aussi l'emploi qui vous convient au Salon de l'emploi Lévis-Bellechasse le 21 et 22 mars au Lévis Centre des congrès. Un emploi dans votre domaine, de meilleures conditions, un horaire flexible. Rencontrez des employeurs qui n'attendent que vous. Visitez selb.ca. Le salon est rendu possible grâce à la participation financière du gouvernement du Québec et nos partenaires hors CPE La Béquille et des Petits Pommiers, Lévis, Exceldor, PepsiCo.
Le saviez-vous? Avec la nouvelle loi, vous devez faire clôturer votre piscine avant septembre 2025. Clôture Stratégique sont les experts en clôture de piscine. Plusieurs modèles pour tous les budgets sont disponibles avec possibilité de financement. Réservez maintenant pour éviter les délais. Clôture Stratégique avec un K.com.
Voici de bien bonnes raisons de vous procurer le Kicks chez Sainte-Foy Nissan et Beauport Nissan. En ce moment, le Kicks est offert en location sur 39 mois pour l'équivalent de 69 $ par semaine. Wow! Et pour souligner que Nissan est ici avec vous depuis 60 ans, vous obtenez un super bonus de 1 500 $ et vous courez même la chance de gagner votre achat. Allez, passez chez Beauport Nissan et Sainte-Foy Nissan et venez essayer votre Kicks. À compte de 1 599 $, des conditions s'appliquent.
Prêt à vendre votre propriété? Avec Yann Genois, courtier immobilier, profitez de 12 ans d'expertise, d'un service humain et de stratégies qui rapportent gros. Maximisez la valeur de votre propriété dès maintenant. Contactez Yann Genois ou visitez yanngenois.com.
Yann Genois, votre vision, votre succès immobilier.
Les jours gros rabais sont arrivés chez Mondou. Obtenez deux conserves de nourriture humide Pet Story sélectionnées pour chat pour le prix d'un. Jusqu'au 23 mars, passez en magasin pour d'autres offres incroyables ou consultez lemondou.com.
Équipez-vous pour l'aventure au Salon plein air chasse, pêche et camping présenté conjointement avec le Salon du bateau de Québec. Le plus grand événement de plein air revient au Centre de foire Exposité du 27 au 30 mars pour une fin de semaine débordante d'activités. Vous y trouverez les dernières nouveautés en matière de chasse et pêche, bateau, camping, VR et plus encore. Pendant que vous y êtes, assistez à une conférence passionnante ou tentez de capturer votre première truite dans le bassin. Le Salon plein air chasse, pêche et camping de Québec du 27 au 30 mars au Centre de foire Exposité. Détails, Salon plein air Québec.ca.
Le printemps s'en vient et La Tulipe vous invite à sa foire du plein air. Pour nos 85 ans, on paie l'équivalent des deux taxes sur de nombreux produits en ligne et en magasin. Découvrez les nouveautés printemps-été et profitez de la fête. La foire du plein air, c'est chez La Tulipe jusqu'au 30 mars.
Le 22 mars, vivez l'expérience L'Allier, les nouveaux condos locatifs d'exception à Lévis. Accès exclusif au 8e étage avec vue sur le golfe de Lévis. Visitez le lounge raffiné et le gym dernier cri. L'Allier, des condos locatifs distinctifs pour des gens actifs. Détails sur votreallier.com.
Besoin d'un nouveau véhicule? Chez Lévis Mazda, on a ce qu'il vous faut et on livre rapidement. CX-30 GX à 95 $ par semaine. CX-5 GX à 99 $ par semaine. Mazda 3 GX, 85 $ par semaine. Tout en location. 48 mois avec un comptant minimal. En plus, on paye le max pour votre échange. C'est le moment idéal pour passer à Mazda. Lévis Mazda, juste des bonnes affaires, le meilleur accompagnement et un service impeccable. Passez nous voir dès aujourd'hui chez Lévis Mazda. On s'occupe de vous.
Boulevard 102.1.
De l'actu, du sport, de la circulation, du showbiz. Il se passe de quoi, vous allez le savoir en premier. Il se passe rien, vous allez le savoir aussi.
C'est simple. Ah!
Boulevard 102.1, connecté sur ce qui se passe à Québec. Tes sujets, ton rock, ta radio. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir.
102.1. Je vous rappelle que ce soir, on a le plaisir de jaser avec Benoît Terrien de Truck Stop Québec. Benoît, il nous reste encore quelques minutes ensemble. Comment ça se passe, les relations Canada-États-Unis? Canada-États-Unis dans le merveilleux monde du camionnage. Est-ce que le gros orange crée tant de troubles que ça?
Bon, ce qu'on aurait pu croire, Yannick, depuis le mois de janvier, bizarrement dans notre industrie, c'est qu'on aurait peut-être passé des mauvais quarts d'heure avec les douaniers américains, posant plus de questions. Effectivement, dans certains cas, pose beaucoup de questions. Dans d'autres, un peu moins. Puis dans d'autres, il y a un je m'en foutisme un peu régulier. Ça dépend toujours du douanier, de ce qu'il pense, de ce qu'il veut aussi peut-être véhiculer comme message. Mais il y a une affaire que je ne comprends pas, Yannick, OK? Puis peut-être que les entreprises qui nous écoutent, les gestionnaires d'entreprises qui nous écoutent actuellement, abondent peut-être dans le même sens que moi. Il y a quelques entreprises qui, malheureusement, finiront pas l'année 2025 en raison de l'économie, les doutes que sème l'administration de Donald Trump aux États-Unis. Mais dans notre industrie, là, si je te disais que il y a des gestionnaires qui me disent « Trouve-moi 50 chauffeurs, puis je vais louer 50 trucks, j'ai de l'ouvrage à m'en confesser. » Puis comment est-ce qu'on peut expliquer ça? C'est assez simple, Yannick, c'est que les Américains, avec une surtaxe de 25 % sur les produits canadiens, ne veulent pas payer cette taxe-là, veulent pas défaire nécessairement leur modèle d'affaires avec nous, les Canadiens. Tu sais, on peut penser à l'aluminium, au bois d'œuvre, puis à toute transformation de matériel quelconque. Bien, ce qu'ils font actuellement, c'est qu'ils demandent aux fournisseurs, bon, là, c'est rendu au 2 avril, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça tiendra pas, on ne le sait pas, on le saura cette journée-là, mais d'ici le 2 avril, es-tu capable, on a loué 8 entrepôts, es-tu capable de me fouler ça jusqu'aux portes? Fait que là, bien, ce que ça crée à chaque fois que Trump dit, c'était au début de mars, c'est sa dernière annonce, là, il a remis ça au 2 avril, et là, bien, ce que les acheteurs américains font, foulent des warehouses à côté. C'est pas du périssable, c'est pas bien grave. Puis c'est du produit qui peut toffer longtemps à l'intérieur des quatre murs d'un entrepôt, pourquoi pas. Fait que là, bien, on a une surcharge de travail pour une très, très forte majorité d'entreprises. Puis j'ai énormément de gens qui... Il y a comme une effervescence qu'on vivait en temps de pandémie. L'automne dernier était difficile pour notre industrie. Je ne sais pas si c'était en raison des élections américaines, en raison de l'instabilité, au niveau politique canadienne avec Justin Trudeau, tout ça. Tu sais, on a eu quand même des bouts assez rough dans notre industrie, ce qui nous a amené à avoir peut-être des pertes d'emploi un petit peu, là, tu sais. Et depuis l'avènement de Trump, puis c'est pas relié à Trump, là, mais ces décisions chancelantes de remettre à des dates ultérieures, ce que les Américains font, bien, eux autres ne veulent pas la payer, la surcharge que lui veut nous imposer. Fait qu'il foule les warehouses à côté, ils remplissent les entrepôts, on ne fournit pas de travailler. Il y a des gens qui disent « Tabarnouche, j'ai jamais vu d'ouvrage tant que ça ». Tandis qu'il y en a d'autres qui disent, moi, ben, c'est d'un domaine qui est différent. Ben, moi, tu sais, ça a baissé, ça a droppé. Mais la beauté de l'industrie, c'est que si jamais vous avez moins de travail pour quelqu'un, vous pouvez cogner une autre porte et tout de suite, on va vous prendre.
Okay.
Puis c'est bizarre de parler de ça aujourd'hui. Tu sais, qui aurait cru qu'on aurait parlé d'un boom de travail? Puis je le relis pas à Trump, je le relis à ses idées d'une journée. Dire il fait beau dehors, puis cinq minutes après, il fait pas beau, puis le lendemain, on va avoir un orage, puis finalement, il fait beau. Mais tout ça a créé de l'incertitude. Ce que ça a créé dans notre industrie, c'est un volume à la hausse de transport, puis on va en profiter.
Ben oui, c'est parfait. C'est une manne qui passe. Hey, dernière question, c'est une question d'auditeur que j'ai reçue. Si tu es camionneur, puis tu travailles pour une entreprise canadienne, bon, nécessairement, tu es payé en dollars canadiens. Est-ce qu'un camionneur canadien peut être payé par une entreprise américaine en dollars américains? C'est-tu payant?
Bien, il existe. On ne peut pas faire de ce qu'on appelle du cabotage. Ça veut dire que moi, Québécois, Canadien, je rentre d'un truck américain, je peux le faire, mais je ne peux pas faire du transport de New York, disons, à Miami, partir de Miami, monter à Los Angeles, tout ça, en raison de mon statut. Je suis un Canadien, donc je ne peux pas utiliser mon statut de Canadien. Il existe des entreprises actuellement qui vous offrent un genre de statut... Je connais pas le code, mais un genre de statut d'immigration.